RCF.
Émission spéciale, Jean-Baptiste Cocagne.
Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale en partenariat avec le mouvement des EDC en Auvergne-Rhône-Alpes. EDC pour entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, nous recevons la dernière invitée des matinales EDC en la personne de Marilène Millet. Bonjour.
Bonjour, Jean-Baptiste Cocagne.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes dans le groupe UDI et Centriste qui fait partie de la majorité de Laurent Wauquiez. Vous êtes également maire de Saint-Genis-Laval, une commune de la métropole de Lyon au sud-ouest. 20 000 habitants, un peu plus, qui vient par ailleurs de voir arriver le métro B qui a été prolongé il y a quelques semaines jusqu'aux hôpitaux sud. Alors vous êtes intervenu devant le public des EDC sur le thème de la joie comme ciment du collectif. Joie et politique, ça ne va pas forcément de soi.
Alors effectivement, ça peut paraître contradictoire. La joie, en fait, c'est effectivement un ciment intérieur qui permet aussi peut-être de faire de la politique différemment.
Joie, est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est autre chose? Comment vous le définiriez?
En fait, la joie, ce n'est pas une accumulation de choses ni de moments. En fait, c'est vraiment une respiration et une force intérieure.
C'est une posture aussi. C'est quelque chose qu'on travaille.
Alors, je pense que quand on a la joie intérieure, effectivement, ça se ressent évidemment dans la posture. Ça peut aussi effectivement être donné comme, pas comme injonction, mais comme se dire en fait aussi d'être attentif à l'autre. Et c'est une forme de joie aussi.
La joie au service du collectif, forcément dans vos fonctions d'élu, vous êtes maire donc avec une équipe municipale, vous êtes aussi salarié, on y viendra un peu plus tard dans l'interview. Comment la joie peut-elle diffuser, rayonner et finalement créer du lien dans le collectif?
Effectivement, créer du lien, c'était le slogan de mon équipe. Et c'est aussi notre ciment de notre collectif, puisque justement nous étions un collectif, c'est-à-dire des personnes avec des opinions différentes, mais réunies par un projet et avec vraiment l'envie et le souhait de créer du lien et d'apporter de la joie.
Mais comment ça colore finalement une action collective? Comment on peut arriver à transformer, à donner de l'enthousiasme?
Déjà en se respectant les uns les autres, en réfléchissant au sens de nos actions, en s'écoutant, en déterminant aussi, c'est ce qu'on a fait pendant notre campagne, un projet ensemble. Nous avions coutume de dire notre parti, c'est Saint-Genis. Vraiment, voilà, dépasser nos propres convictions personnelles pour se mettre aussi au service du projet et de l'intérêt des habitants.
Comment la politique est-elle source de joie pour vous, Marilène Millet?
La politique est source de joie parce que, en fait, je pense qu'elle permet aussi de servir le bien commun. Voilà, c'est peut-être très ambitieux comme phrase, mais vraiment de se dire qu'on va pouvoir se mettre au service du plus grand nombre.
Alors, vous avez ce postulat de la joie, finalement. Est-ce que on vous renvoie pas que vous êtes naïve, que vous vivez un peu dans un monde de bisounours?
Effectivement, la joie, ça peut être le ravi de la crèche, je dirais. Mais c'est vraiment pas comme ça que je le perçois, en fait. Souvent, les personnes qui vous renvoient cela, ce sont des personnes qui peuvent être dans la détresse, dans la colère, dans la souffrance. Et en fait, la joie, c'est pas des contingences extérieures, ni des quelque chose qu'on accumule, c'est vraiment un ciment personnel. Et je pense aussi que la joie, elle peut être communicative. On peut aussi donner cette force aux autres en étant joyeux.
Est-ce que vous avez véritablement découvert une violence dans le monde politique? Vous vous êtes engagé en 2008, ce n'est pas forcément quelque chose auquel vous aviez pensé. Est-ce que c'est aussi violent qu'on le dit dans un monde où la compétition est la base du jeu politique?
En fait, ce qui est violent, c'est effectivement la violence, elle existe. Je pense aussi que quand on est une femme, cette violence est plus forte. puisque quelque part, moi, quand je suis arrivée en politique, c'était, vous l'avez rappelé, en 2008, donc au moment en fait où la parité est devenue obligatoire. Donc finalement, on est allé chercher des femmes histoire d'eux, mais on se disait, il faudrait pas qu'elles prennent trop de place non plus. On voit aujourd'hui que je crois qu'il y a une femme sur cinq à peu près qui est mère en France. Donc en fait, on voit que ce n'est pas complètement encore la parité. Et effectivement, il y a de la violence. Je pense aussi qu'il y a de la violence parce que dans le monde des réseaux sociaux, on est finalement sur beaucoup de réduction de la pensée. Il n'y a plus de place pour la complexité. Voilà, il faut tout décrire en un tweet. Et finalement, c'est facile aussi d'être réducteur, d'être assez populiste. Je pense aussi que notre rôle, nous, les politiques, c'est aussi de savoir expliquer la complexité, de savoir expliquer aussi des fois pourquoi on est amené à changer d'avis. Voilà, il faut faire appel, je pense, à l'intelligence de chacun. Et finalement, c'est aussi ce qui peut élever le débat et élever chacun.
Ça fait 15 ans que vous êtes dans ce monde politique. Est-ce que déjà, en 15 ans, vous avez vu une forme d'évolution, justement, dans la violence ? Est-ce qu'elle est plus intense ? Est-ce qu'elle est différente ? Quel est votre regard là-dessus ?
Je pense qu'elle peut paraître plus intense et plus violente, notamment avec les réseaux sociaux. En fait, on se rend compte que derrière un écran, des personnes que vous croisez, je dirais, le lendemain dans la rue, sont capables de vous dire des choses extrêmement violentes, alors qu'en fait, quand vous les croisez, ils sont plutôt charmants. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux qui ont pris peut-être beaucoup de place pendant la période Covid, où en fait, on était éloignés les uns des autres, ça peut aussi, pour certains, remplacer la rencontre et aussi ce qui fait l'intérêt de la politique, c'est-à-dire le débat contradictoire et le fait qu'on puisse échanger sans être forcément d'accord. C'est assez réducteur, en fait. Et du coup, quand on réduit, on peut réduire à pour, contre. Je trouve que, par exemple, des fois, on voit des commentaires de certaines personnes qui vont parler de moi en disant « celle-là » ou « elle est complètement à côté de la plaque ». Je trouve que ça peut être assez violent, effectivement, dans l'expression.
Est-ce que vous constatez aussi un engagement de plus en plus difficile à trouver pour des gens qui se mettent au service, justement? Est-ce que trouver des charismes politiques, c'est de plus en plus difficile, ou finalement, depuis 2008, c'est toujours le même problème?
L'engagement peut faire peur, effectivement, quand on voit certains débats, quand on voit certains commentaires, quand on voit aussi la réduction de la pensée. On est sur Twitter en 140 caractères ou un petit peu plus, on doit exprimer une pensée. Finalement, ça laisse peu place à l'explication et à la complexité. Donc c'est ce qui rend des fois aussi le débat violent et peut-être la difficulté de l'engagement. Après, je crois aussi que finalement, on se met aussi des fois parfois nos propres limites, en se disant la peur d'y aller, la peur aussi d'affronter la contradiction, la peur d'affronter la différence. Ça peut aussi vous pousser à rester dans votre zone de confort. Faire de la politique, c'est aussi sortir de sa zone de confort.
Justement, pourquoi vous vous êtes engagée en politique, Marilyn Millet?
Alors, à l'époque, j'avais toujours été intéressée par la chose publique. Et c'est vrai que j'étais, comme beaucoup de personnes aussi chrétiennes, un peu en dehors, à donner mon avis, mais sans vouloir vraiment m'engager. Et à l'époque, le père Tounoux avait fait une homélie sur l'engagement des chrétiens en politique pour expliquer aussi que c'est aux chrétiens aussi de prendre leurs responsabilités et de porter aussi des projets avec d'autres. On n'est pas
prosélytes. Père Tounoux, qui était curé de votre paroisse, je précise.
Voilà, donc c'est aussi ce qui m'a poussé à me dire, sors de ta zone de confort et vas-y, présente un projet et après, tu verras s'il rencontre l'adhésion ou pas.
Alors professionnellement, vous avez aussi une carrière, Marie-Hélène Millet, et votre parcours est fait de plusieurs reconversions. Vous avez commencé d'abord dans l'industrie laitière, puis 10 ans en tant que professeur des écoles, avant d'être aujourd'hui dans le secteur de l'encadrement des organisations sanitaires et sociales, puisque vous êtes responsable qualité et gestion des risques dans un EHPAD, l'EHPAD Villanova à Corba, c'est près de Lyon, en temps partiel pour justement pouvoir gérer votre mission d'élu à côté. Sur quoi repose votre équilibre finalement entre vie publique, vie professionnelle et vie privée ?
Je pense que c'est important de pouvoir garder un pied dans le vrai monde, entre guillemets. Quand je suis à la mairie, bah effectivement, je suis madame la maire, je suis un peu le pilote, on va dire, dans l'avion. Et ce que j'aime aussi dans mon travail, c'est finalement d'être une personne dans une organisation et pas la tête de l'organisation. Donc d'avoir des rapports avec toutes les personnes de l'EHPAD d'une manière peut-être beaucoup plus simple et vraie.
Et comment ces deux sphères se nourrissent ? Comment votre mandat de maire nourrit votre mission de salarié ? Et comment ce que vous vivez en tant que salarié nourrit votre regard de maire ?
Ce que je vis en tant que salarié, déjà, c'est vraiment une respiration aussi dans ma semaine. En fait, voilà, de me retrouver avec des collègues, d'avoir un intérêt qui est différent, de pouvoir porter des projets aussi collectifs, de m'intéresser aussi aux personnes âgées, d'être à leur contact. Voilà, ça me fait beaucoup de bien et ça me nourrit aussi, du coup, dans ma pratique professionnelle, parce qu'en fait, pour donner, il faut aussi recevoir. Donc, en fait, je reçois aussi beaucoup en travaillant. À l'inverse, je dirais que d'être dans mes fonctions de responsabilité aussi, bah voilà, ça me donne aussi peut-être un autre regard sur mon métier, sur aussi les personnes que je côtoie.
Vous êtes intervenu auprès des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Quelle dirigeante vous êtes ? Quelle manageuse êtes-vous ? Comment vous pourriez vous définir ?
Alors là, c'est compliqué de s'auto-définir.
Analyser.
Je dirais qu'il y a ce que je voudrais être et peut-être ce que je suis. J'essaye de rester dans le respect, l'écoute, la bienveillance. Après, je vous dirais clairement que des fois, je peux être impatiente, un peu brute de pomme, on va dire. Donc voilà, j'essaye de me canaliser parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'idées. Et souvent, tous les matins, j'arrive en disant « Tiens, j'ai eu une idée » et je vois le regard de mes collaborateurs et je me dis « Attention, Marie-Hélène, ralentis, ne les mets pas sous pression. » Voilà, je pense que je peux avoir un tempérament, des fois un peu, pas explosif, mais très enthousiaste. Et il faut aussi que je me modère.
Et quelles sont les valeurs que vous cherchez à incarner auprès de vos équipes ?
J'essaye de rester dans l'écoute, dans le respect, dans la bienveillance. À la fois, j'ai aussi envie de porter la valeur du travail. C'est vrai que moi, j'aime le travail bien fait. Je suis exigeante avec moi-même, mais je pense être exigeante aussi avec les autres.
Quand on est dirigeante, quand on est a fortiori élue, il y a la question de l'exemplarité qui traverse aujourd'hui avec des frontières qui sont parfois sans cesse repoussées avec les réseaux sociaux. On en parlait aujourd'hui. On a l'impression que même ce qui est permis par le droit, mais pas par la morale, peut vous être reproché en tant qu'élue. Comment vous vivez ça finalement ? C'est difficile d'arrêter un peu le regard des autres, même dans une sphère privée ?
Oui, alors après, je pense qu'on peut se donner aussi ses propres limites. Mais vous parliez d'exemplarité. Souvent, on peut reprocher aux élus, oh là là, je vais être assez franche dans mes propos, ils se gavent, ils s'en mettent plein les poches. C'est pour ça que je pense aussi qu'il faut essayer d'être le plus transparent possible. Moi, dans le journal municipal, j'ai expliqué combien ma fonction de maire me rapportait, on va dire, financièrement. Quand je suis arrivée, j'ai aussi souhaité vendre le véhicule de fonction parce que ça ne m'apparaissait pas nécessaire d'en avoir un et que je me déplace beaucoup à vélo. Voilà, c'est aussi peut-être par des petits actes qu'on peut montrer qu'on peut faire de la politique sans être quelqu'un qui veut en tirer un avantage pour lui. Je pense que c'est vraiment la transparence. Par exemple, toutes les semaines, je mets mon agenda en ligne. J'explique voilà ce que je vais faire, qui je vais rencontrer. J'essaie de faire des petits comptes rendus. Voilà. Après, ça, c'est le domaine professionnel. Le domaine privé, je trouve que finalement, c'est quand même assez bien respecté de la part des habitants.
Il y a peut-être une quatrième jambe, si je me permets, qui est l'un des fils rouges de votre parcours. C'est aussi l'engagement associatif qui est fort. Comment ça a forgé votre parcours, cet engagement-là ?
Effectivement, bah, j'ai eu plusieurs engagements associatifs. J'ai fait de l'apprentissage du français. J'ai été dans la paroisse, au niveau des scouts et guides de France. En fait, je dirais que ça rejoint le reste. En fait, c'est l'engagement de se dire qu'on peut servir à quelque chose et qu'on a envie de servir à quelque chose. Et finalement, c'est aussi les scouts, hein, la parole des scouts, de rendre le monde un peu meilleur.
Dans ce quotidien dense, comment vous arrivez à prendre du recul, à vous ressourcer ?
Alors, effectivement, je crois que c'est important de savoir se ménager des pauses. Donc, j'essaye généralement le dimanche, quand c'est possible, d'être off, on va dire, au niveau du travail. Donc, de faire un peu de la déconnexion, d'aller faire du sport, d'aller à la messe, enfin voilà, de me ressourcer. Parce que je crois profondément que pour donner aux autres, faut aussi pouvoir recevoir. Et c'est aussi de cette manière que je peux recevoir. Après, chaque année, j'essaye aussi d'avancer sur le chemin de Saint-Jacques, petit à petit, kilomètre par kilomètre. Il m'en reste encore beaucoup à parcourir.
Là, vous êtes arrivé à la frontière espagnole quasiment.
Voilà, là, je suis avec mes amis, nous sommes rendus à Ostabat. Donc, on est à 23 kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et si tout va bien, en mai prochain, nous passerons en Espagne.
Marianne Millet, quand on est pilote de l'avion, comme vous le disiez, on est aussi la personne qui prend les décisions. Et ces décisions, on les prend seules. Quel est votre rapport par rapport à la solitude du dirigeant que vous avez peut-être découverte au moment d'entrer en fonction ?
Effectivement, je n'avais pas éprouvé ce qu'on appelle la solitude du dirigeant afin d'être maire. Et c'est pour ça aussi que le fait de pouvoir se ressourcer, de pouvoir se nourrir est extrêmement important pour pouvoir affronter cette solitude. Même si, bien évidemment, en amont, on prend le maximum de renseignements, on discute avec les uns et les autres, mais on est parfois amené à faire des choix seuls. C'est difficile. Voilà, je crois aussi qu'il faut se remettre à la grâce de Dieu.
Comment, en tant que chrétienne, d'ailleurs, vous vivez la laïcité à la française liée à votre mission d'élu ? Comment on arrive à concilier tout ça ?
Je crois que c'est très simple, hein. Je crois qu'il y a la personne que je suis qui est croyante et qui exerce sa foi. Et après, dans mes fonctions de maire, je ne fais pas état ni de ma foi. On n'est pas aux États-Unis, hein. Je ne fais pas des prières avant les conseils municipaux. Voilà, je crois que c'est très simple en fait. Je crois qu'on se pose beaucoup de questions autour de la laïcité, beaucoup de craintes. Je pense que c'est très très simple en fait. On a une foi, mais qui est personnelle. C'est aussi ce qu'on dit au moment du carême. Hein. Il faut que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche ou l'inverse. Et quand tu pries, fais-le en silence et dans le retrait de ta chambre. C'est vraiment ça, en fait. Il n'y a pas de prosélytisme, mais ça fait partie de ma personne.
Comment la foi occupe une place dans votre vie ? Vous l'avez évoqué rapidement, mais comment on pourrait qualifier cette foi au quotidien ?
Je dirais que la foi, c'est justement la joie profonde. En fait, c'est mon ciment, en fait. Donc, au quotidien, c'est très simple, hein. Je pense que, comme beaucoup de personnes croyantes, c'est la prière, le ressourcement aussi dans la lecture, dans le fait d'aller à la messe et d'entendre aussi les homélies. Voilà, c'est ça mon quotidien.
Quelles sont les figures qui vous inspirent ? Qu'elles soient liées à la religion ou pas, d'ailleurs.
Alors, côté religieux, bah, ça serait Sainte Thérèse de Lisieux, dont je trouve le parcours plutôt très inspirant. Après, les autres personnes qui m'inspirent, peut y en avoir dans le monde du sport. J'aime beaucoup l'américaine qui a couru le premier marathon de Boston, ou en se faisant enregistrer d'ailleurs sous un nom qui pouvait être ambigu et masculin, parce qu'en fait elle a montré que, c'était il y a même pas 40 ans je crois, elle a montré aussi que les femmes pouvaient courir, parce qu'à l'époque on pensait que nous étions de tellement de petite nature que nous ne pouvions pas courir. Et comme j'aime beaucoup la course à pied, c'est un parcours très inspirant pour moi. C'est à la fois un parcours d'une femme qui a montré aussi qu'on était aussi capable que les hommes de faire certaines choses, et elle l'a fait d'une manière extrêmement positive. Et c'est ça aussi que je trouve inspirant.
Et la joie se partage, hein, évidemment.
Catherine Switzer.
Voilà, la joie se partage, c'est le slogan de RCF. J'aimerais terminer cette interview, Marianne Millet, avec une citation de Thomas Dansenburg, qui est psychothérapeute spécialisé dans la communication non-violente. Il dit « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, ce n'est pas forcément être joyeux, c'est être présent pleinement à ce que nous vivons. Il faut cesser enfin de faire pour apprendre à être. » Comment ça résonne pour vous, dont la mission est le faire en tant qu'élu, et comment ça résonne avec ce postulat de la joie que vous nous avez partagé?
Oui, je trouve que c'est assez scout aussi d'ailleurs comme pensée. Je crois que c'est Baden-Powell qui disait « Le véritable bonheur est de le donner aux autres ». Donc c'est ça aussi, c'est de finalement ce qu'on fait n'est que la poursuite de ce qu'on est en fait.
Merci beaucoup Marianne Millet d'avoir été notre invitée au micro de cette émission spéciale en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous étiez donc l'invitée de leur dernière matinale consacrée à la joie, un défi au quotidien tout en créant du collectif. Je rappelle que vous êtes donc conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes et maire de Saint-Genis-Laval dans la métropole de Lyon.